La Bible, dans laquelle nous allons faire trois courtes lectures. La première est située dans le livre de la Genèse, au chapitre 5. Le verset 21. Genèse, chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Nous tournons les pages pour en arriver dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Un dernier petit passage dans l'épître de Jude, donc juste avant le livre de l'Apocalypse. Et nous lisons le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. Amen. » Vous savez donc maintenant, chers frères et sœurs, de qui je veux parler ce soir. Il s'agit d'un homme qui, à mon sens, possède trois caractéristiques qui sont très importantes. La première caractéristique qui qualifie cet homme, c'est qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. La deuxième chose, c'est qu'il avait tout simplement une telle confiance en Dieu qu'il a un jour été enlevé par Dieu lui-même et on ne le vit plus parce que Dieu le prit. Et le troisième point, qui est pour moi aussi très important, c'est que cet homme, pendant sa génération, a été un prophète. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler d'Enoch en tant que prophète. Cependant, l'épître de Jude est claire et nous montre cet homme qui a prophétisé au sein d'une génération qui était particulièrement rebelle, qui ressemble, nous allons le voir dans un instant, étrangement à la nôtre, mais il a été fidèle pour annoncer justement un jugement de la part de Dieu, et nous savons que ce qui a été annoncé par la bouche de cet homme s'est accompli, parce que cette génération perverse au sein de laquelle il a vécu, eh bien, a eu droit au jugement de Dieu. Première chose donc que j'aimerais mettre en relief, c'est que cet homme s'est trouvé au sein d'une génération qui ressemble étrangement à celle dans laquelle nous sommes. C'était cette génération qui constituait un triste monde, une grande famille qui a été malheureusement impacté par un crime terrible. C'était le crime qui a été commis par Caïn sur Abel. Et à partir de ce moment-là, Caïn a été rejeté, loin de la présence de Dieu, et c'est lui qui, le premier, a fait une ville dans laquelle bien des choses se sont développées. Il y a eu la musique, les loisirs, il y a eu aussi la métallurgie, il y a eu un tas de choses qui ont été réalisées pendant cette période-là, mais nous savons, hélas, aussi que cette génération-là n'invoquait pas le nom du Seigneur. Alors est intervenu Dieu d'une manière assez particulière. Et la Bible nous apprend que pour remplacer Caïn, Dieu a visité Ève, qui a connu Adam, et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu Seth qui est né, ce personnage dont le nom signifie « à la place de ». C'est-à-dire que Caïn a été remplacé par Abel, pardon, pas Caïn, mais Abel, a été remplacé par Seth. Et Seth a donné naissance à un certain personnage qui s'appelle Enoch, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Le nom Enoch signifie « homme mortel ». Ce n'est pas le personnage duquel nous allons nous entretenir ce soir. Mais Enoch était justement celui qui est venu comme en quelque sorte un fruit donné à Seth et à son épouse. Et c'est à partir de ce moment-là que la Bible nous dit que les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. À partir de cet instant-là, nous pouvons dire que l'humanité était divisée en deux branches. D'un côté, il y avait ceux qui, comme Caïn, avaient une religion. Parce qu'on ne peut pas dire que Caïn n'avait pas de religion. Caïn, justement, nous l'apprenons par la Bible, offrait à Dieu le fruit de son travail. Mais la Bible déclare que Dieu ne pouvait pas jeter un regard favorable sur le fruit de son travail, alors que Caïn savait très bien ce que Dieu avait fait pour couvrir le péché de ses parents. Vous vous souvenez certainement, parce que ceci est tout à fait élémentaire, que lorsqu'il y a eu la chute, alors Adam et Ève ont voulu cacher leur nudité. Et en voulant cacher leur nudité, ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Mais Dieu est intervenu et il a donc sacrifié un animal et c'est avec la peau de cet animal qu'ils ont été revêtus et en même temps, le sang là, eh bien, était comme avant-coureur du message que nous trouvons dans la parole de Dieu au travers de l'efficacité du sang de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et bien sûr, c'est cela que Caïn aurait dû prendre en considération. Son frère avait réalisé cela. Et c'est la raison pour laquelle lui offrait, comme nous le savons tous, eh bien, un animal en holocauste à l'Éternel, ce qui lui valait l'approbation de Dieu. Parce qu'il y avait là donc comme une anticipation de l'œuvre parfaite que le Seigneur Jésus allait accomplir en notre faveur. Et lorsque Enoch, non pas Enoch, mais Enoch est né, alors l'humanité a commencé, une partie de l'humanité a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ainsi donc l'humanité était divisée, non pas en noir et blanc, en petit et grand, en riche et pauvre, mais il y avait ceux qui invoquaient le nom de l'Éternel et il y avait ceux qui ne l'invoquaient pas. Et je dirais que quand nous considérons notre génération à l'heure actuelle, eh bien, nous pouvons dire la même chose. Vous voyez, les êtres humains sont capables de définir des classes à partir de dénominations, à partir de races, à partir de certaines situations particulières. Mais moi, plus j'avance, et vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, ben je vais encore le redire ce soir, plus j'entends parler de dénomination, et plus j'ai cette parole en horreur. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui vaut vraiment la peine d'être vécue, c'est d'être adorateur du Seigneur en esprit et en vérité. Et la Bible met en relief que ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et justement, beaucoup plus tard, est arrivé cet homme dont nous avons lu le témoignage dans la Bible, qui s'appelle Enoch, et dont il nous est dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et ici, je me permets de souligner un point. Que Dieu marche avec nous, c'est une chose, mais que nous nous marchions avec Dieu, c'est une autre chose. Vous allez dire, mais quelle est la différence? Eh bien, je vais essayer de la mettre en relief. Vous savez, que Dieu marche avec nous, c'est la conséquence de la rédemption et de l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Je vais prendre des exemples. Quand Israël a été délivré de l'esclavage qu'il a connu en Égypte, il a traversé la mer Rouge, il se trouve dans le désert, et que nous dit l'Écriture? Dieu marche avec eux. Et il marche avec eux et sa présence, elle est manifeste au travers de la nuée et même dans le tabernacle. Il y a plusieurs signes qui prouvent que Dieu est avec eux. Mais nous, nous savons, hélas, que le cœur de ce peuple était bien loin d'être toujours agréable à Dieu. Il y a un autre témoignage que je peux tirer de la parole de Dieu. Lorsque Christ a accompli l'œuvre que nous connaissons sur la croix, après être passé dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts, et voici que deux disciples du Seigneur, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, tournaient le dos à Jérusalem et allaient dans la direction d'Emmaüs. Et la Bible nous dit que Jésus marchait avec eux. Mais eux, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jusqu'à ce moment très précis où il leur a montré, en rompant le pain, ses mains. Et à partir de cet instant-là, les yeux se sont ouverts. Ils ont vu que c'était Christ ressuscité. Et alors qu'il marchait, je dirais en sens inverse, ils ont fait demi-tour et ils ont retourné à Jérusalem qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Et là, eh bien, on se rend compte que le Seigneur est capable de marcher avec nous, même lorsque nous ne sommes pas toujours fidèles. Mais ce qui est important, c'est que nous, nous prenions la décision de marcher avec lui. Or, dans le livre du prophète Amos, si je ne me trompe, il y a cette précision qui est donnée. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être d'abord convenus? Est-ce qu'ils ne se sont pas mis d'accord pour pouvoir marcher ensemble? Or, nous, nous voulons marcher avec le Seigneur. Mais pour marcher avec le Seigneur, il faut que notre volonté soit alignée à la sienne. Or, voilà ce qui se passe, malheureusement, c'est que souvent, eh bien, nous avons notre propre volonté, nous avons notre propre désir, nous avons notre marche. J'entendais un frère tout à l'heure invoquait le nom du Seigneur, et dans sa prière, que disait-il ? Il disait que nous devions marcher dans la sanctification. Effectivement, que dit la Bible ? La Bible dit « sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ». Mais c'est quoi la sanctification ? Ce n'est pas le résultat de nos efforts personnels, car même si nous voulons déployer des efforts considérables pour atteindre un certain niveau, aucun d'entre nous ne pourra jamais l'atteindre. Mais c'est en Jésus-Christ et caché en lui que nous avons la justice, que nous avons la sanctification et déjà par la foi que nous sommes glorifiés. C'est-à-dire que tout ce que nous ne sommes pas par nature, Christ l'est pour nous et nous le saisissons comment ? Par le moyen de la foi. Ça, c'est marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire que ce que je comprends de la marche du Seigneur sur cette terre et qui m'est dévoilé au travers de la parole de Dieu, qui m'est dévoilé au travers de l'Évangile, eh bien, doit tout simplement être l'objet de mon attention. Et à partir de ce moment-là, que vais-je faire ? Je vais dire, Seigneur, moi, je veux te ressembler. Être comme le Seigneur, ça devrait être notre but. Or, vous savez comment l'apôtre Paul a parlé ? Il dit à un moment donné, « Moi, je cours pour tâcher d'atteindre le but. » Et il dit, « Je n'ai pas encore atteint le but. » Et j'aime souvent à répéter, si l'apôtre Paul est capable de dire « Je n'ai pas encore atteint le but », alors nous, combien de chemins avons-nous à parcourir ? Or, c'est là ce qui doit être dans notre cœur. On ne peut être adorateur du Seigneur que lorsque nous avons par la foi saisi qui est Christ, ce qu'il est, et son exemple vient tout simplement impacter notre cœur pour que nous n'ayons d'autre désir ici-bas sur la terre que de ressembler au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu va venir en aide pour que nous puissions être fidèles jusqu'à la fin. Enoch, je suis persuadé de ne pas me tromper en disant ce qui va suivre, était un homme de la même nature que nous. Mais s'il a pu accomplir cela, c'est parce que sa foi était placée en Dieu et la foi, c'est l'obéissance. Je ne peux absolument jamais séparer la foi de l'obéissance. Et aujourd'hui, eh bien, on entend tellement de personnes dire « Ah, mais moi je crois dans le Seigneur » et on trouve un refuge dans cette expression « Je crois au Seigneur ». Mais comme vous le savez, parce que vous l'avez lu dans la Bible, et puis si souvent cela est répété dans les réunions, les démons aussi croient. Et pour autant, ils ne sont pas justifiés. La foi, elle nous amène sur le terrain de l'obéissance à Christ. Et l'obéissance à Christ va nous amener, bien sûr, à débarrasser nos cœurs des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Et la parole de Dieu met en relief que des fois, nous pouvons accepter dans le fond de notre cœur un tas de petits détails qui ne sont pas du tout en harmonie avec ce que Dieu veut. Et ce sont ces choses-là qui empoisonnent notre vie personnelle, notre vie spirituelle et dont Dieu veut nous débarrasser. Il y a la sanctification que nous saisissons en Christ. Mais ça, c'est notre position par la foi en Christ. Mais ce que nous connaissons de notre position par la foi en Christ doit se concrétiser ici-bas sur la terre par des actes précis et ce sont nos actes d'obéissance à Christ qui nous amènent à lui ressembler de plus en plus. Il y a une constatation que j'ai faite dans de nombreux situation malheureusement provenant de la part de chrétiens qui sont toujours en train de parler de la bonté de Dieu, toujours en train de parler de l'amour de Dieu, et on a l'impression que c'est ceux-là qui est la chose la plus importante. Et je voudrais ici confirmer, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus merveilleux et de plus grand que l'amour de Dieu. Mais n'oublions pas que ce Dieu qui est amour, que ce Dieu qui est bon, c'est aussi un Dieu qui est juste. Et c'est aussi un Dieu qui est saint. Et nous entendons parfois des témoignages qui nous glacent pour la simple raison que on a l'impression que la grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet de marcher en contradiction avec la volonté de Dieu, mais Dieu est si bon qu'il pardonne tout. Il pardonne tout, mais jamais sans la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est abandonner le péché. C'est abandonner le mal. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous ne nous détournons pas de la voie de la désobéissance. Donc la caractéristique de cet homme, c'était cette faculté. Il a marché avec Dieu. Il était intègre. Il connaissait quelle était la volonté de Dieu. Et dans sa vie, eh bien, il a fait de Dieu la priorité. Et je vous assure, si Dieu est le premier dans notre vie, alors ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, notre cœur se remplit d'une paix, d'une joie véritable, et en même temps, il y a cette espérance dans notre cœur, il va bientôt venir. Or, qu'est-ce qui est arrivé à Hénoch? Il a marché avec Dieu, il a marché fidèlement avec Dieu, et d'un seul coup, il ne fait plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prie. Je ne peux quand même pas enlever de la Bible ce qui est pour chacun d'entre nous une note d'espérance incroyable. Quand nous prêchons l'Évangile, qu'est-ce que nous disons? Jésus sauve, mais Jésus revient. Et à l'heure actuelle, s'il y a une consolation pour nos cœurs, c'est de savoir qu'il ne va pas tarder. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde ne peut pas s'enfoncer encore bien davantage dans l'iniquité, dans la corruption dans laquelle il se trouve, sans encourir le jugement de Dieu. Mais avant de parler de ce jugement de Dieu, il faut quand même que nous parlions de ce qui est notre espérance la plus glorieuse. Jésus revient, mais permettez-moi, en étant succinct quand même ce soir, de dire que sa venue se fait, comme vous le savez, en deux étapes. Première étape, eh bien, c'est quand il va paraître sur les nuées. Non pas qu'il va venir ici-bas sur la terre, mais la Bible dit, il va paraître sur les nuées, et nous serons attirés vers lui. J'ai eu déjà l'occasion dans le passé de dire, comme la limaille de fer est attirée par l'aimant, parce que c'est de la même nature. Si nous avons reçu la nouvelle nature, alors quand Jésus paraîtra, il nous attirera à lui. Et de là, eh bien, nous irons dans ce lieu que la Bible déclare être, eh bien, l'endroit où se déroulera les noces du festin de l'agneau. Et le festin des noces de l'agneau. Et c'est une chose formidable pour nous de savoir que Jésus, à ce moment-là, va pouvoir se présenter une épouse qui sera sans rides, sans taches, ni rien de semblable. Alors, vous allez nous dire, frère, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Et on pourrait trembler en disant, oh, mais pourtant la Bible déclare qu'un jour viendra où c'est ce qui s'accomplira, ce qui sera réalisé. C'est ça qui me fait, en quelque sorte, frémir de joie, d'allégresse, de savoir que Dieu, dans sa grâce, a commencé une œuvre. Il est fidèle, et l'œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite. Écoutez bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, les regards de chacun peuvent se porter justement sur des choses négatives. Et je ne suis pas un insensé au point de nier ce qui est une réalité, aussi bien ici qu'ailleurs. parce que malheureusement, l'état de l'Église en général est vraiment désastreux. Mais moi, je ne peux pas enlever de mon cœur cette certitude que ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu va faire son travail d'une manière parfaite et qu'un jour, tel il est, tel nous serons. Peut-être que maintenant, eh bien, nous disons, mais comme je suis loin, comme je suis loin. Vous voyez, mais moi, je ne peux pas effacer les promesses dans la Bible. Je ne peux pas enlever cette espérance qui se trouve dans la parole de Dieu. Et Jésus est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit. Nous avons à fixer nos regards sur le Seigneur, déployer nos efforts en comptant sur le secours du Saint-Esprit pour obéir aux ordres de Christ et laisser l'action de l'Esprit de Dieu faire cette transformation. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit que dans la mesure où nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire en son image. Je voudrais pas être négatif ce soir, mais mes frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ce qui fait le plus de défaut aux chrétiens sur le plan individuel, c'est cette recherche de la face de Dieu quotidienne. Dans des moments personnels où on est face au Seigneur et également dans la méditation de la parole de Dieu, en réclamant le secours de l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu et qu'elle s'applique à notre cœur. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances intellectuelles, il s'agit de laisser cette parole descendre dans notre cœur et nous transformer par l'action du Saint-Esprit. Et la Bible dit que dans la mesure où nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire en l'image de notre Seigneur. Ainsi, eh bien, ce travail accompli par l'Esprit de Dieu débarrassera nos cœurs de tout ce qui est contraire à sa volonté, et le jour où il paraîtra, eh bien, nous partirons avec lui. Je pense à ce qui se passera dans le monde quand l'Église va être enlevée. Mais moi, je me réjouis en espérance de savoir qu'avec le Seigneur, eh bien, nous allons bénéficier d'une éternité de félicité. Cependant, je vous ai dit, la venue du Seigneur se fait en deux temps. L'enlèvement de l'Église, mais aussi, il y a une promesse dans la parole de Dieu qui concerne le peuple d'Israël, mais qui en même temps nous concerne. Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui, à ce moment-là, eh bien, connaîtra un ébranlement tel que cela va permettre à ce peuple de connaître justement un secours au moment où il sera complètement entouré d'ennemis et vraiment sur le bord d'être anéanti. Mais Christ, qui tient sa promesse, viendra pour le secourir. Mais attention, Zacharie nous dit que Christ va venir avec qui? Avec les siens. Et les siens, c'est qui? C'est vous et c'est moi. Donc nous serons avec lui et avec les saints anges. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à régner avec Christ. Or, la Bible dit que si nous souffrons avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Donc, c'est quand même une espérance formidable. Et tout cela nous amène à quoi? À être persévérants sur le chemin de l'obéissance à Christ, parce que c'est là à quoi nous devons regarder. Le diable fait tout pour que nous regardions à tout ce qui est négatif et que nous soyons freinés, ralentis par tout ce qui nous paraît négatif. Non, non, comme le disait un certain serviteur de Dieu au couple de frères qui s'est rassemblé cette semaine, il faut que chacun individuellement cherche le Seigneur, fasse le point avec Christ d'abord, et à partir du moment où chacun fait le point avec le Seigneur, nous allons nous retrouver dans une véritable communion, parce que c'est ce que Dieu veut. Et cette espérance-là, ne doit jamais disparaître de notre cœur. Je regarde le troisième point, et j'en aurai fini. Après, nous pourrons avoir un moment de prière. Le troisième point, c'est ce que dit Jude. Cet homme a été, pendant sa génération, comme un prophète, et nous avons lu très clairement ceci, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété. » Sa vie a été une prophétie. Sa vie était un message pour tous ceux qui l'entouraient. Aujourd'hui, eh bien, il y a des choses horribles qui se passent autour de nous. Il y a des choses qui nous font extrêmement mal et nous entendons des choses qui sont terribles. Mais nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus en tant que sauveur, mais pas avoir honte aussi d'avertir ceux qui nous entourent. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible met en relief que Dieu nous établit comme des sentinelles. Quand Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit « Je t'ai établi comme sentinelle afin que tu avertisses le pécheur. Si tu avertis le pécheur et qu'il se repent, eh bien là, la mission est accomplie. Si le pécheur averti ne se repent pas, eh bien, je n'aurai pas non plus de reproche à faire à la sentinelle, parce qu'elle a fait sa mission. Mais si tu n'avertis pas le pécheur et qu'il meurt dans son péché, alors là, je te demanderai des comptes. » Oh, frères et sœurs, c'est facile de dire, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qu'autour de nous, le mal va croissant. Il y a tellement de choses qui sont terribles et même qui nous posent des questions. Je vais partager avec vous quelque chose. Avec mon épouse, nous avons eu l'occasion d'écouter un témoignage d'une personne, écoutez bien, ne soyez pas effrayés, qui était transgenre. Une personne qui, dès la naissance, est arrivée à l'enfance, a commencé à dire que ce n'était pas une fille, mais un garçon. Puis elle est arrivée à l'adolescence en disant « Je suis un homme enfermé dans un corps de femme. » Elle a beaucoup souffert, elle a connu des passages terribles, jusqu'à même essayer de se suicider. Mais l'œuvre de Christ s'est accomplie dans sa vie. Et moi, ce qui m'a vraiment touché dans le témoignage qu'elle rend, elle a d'ailleurs fait un livre qui est très intéressant à ce sujet, elle a dit, c'est vraiment quelque chose de terrible que d'être sous la domination du père des mensonges qui nous fait croire le contraire de ce que Dieu affirme et de ce que Dieu dit. Elle en était arrivée à un moment donné à dire, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as fait avec un corps de femme alors qu'à l'intérieur de moi-même, je suis un homme? Pourquoi? Jusqu'au moment où elle s'est reprise elle-même, elle a dit, mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne peut pas se tromper. Alors elle a commencé à voir les choses d'une manière différente. Et elle a pensé, mais Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu ne se trompe pas. C'est moi qui me suis dans une voie qui est mauvaise. Et à partir du moment où elle a commencé à confesser la vérité de Dieu, elle a crié à Dieu, elle a dit, tout ce que j'avais comme sensation avant, tout cela a disparu, et maintenant, elle est une femme normale. Normale. Quand on nous fait croire, quelquefois, que, oh, mais finalement, si la personne est née comme cela, Mais on peut pas le changer. Est-ce qu'elle a tort? Non, bien sûr qu'elle n'a pas tort. Sauf si elle ne veut pas accepter ce que dit la parole de Dieu. Parce que le diable, lui, il nous fait croire des choses qui sont terribles. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il fait. Elle est aujourd'hui un témoin formidable dans le monde, ne serait-ce que par ce livre, qui est d'ailleurs très intéressant. Et je dis à Dieu, tout est possible. Mais nous avons besoin, nous, de prendre conscience que nous avons un témoignage à rendre. Aujourd'hui, au contraire, on va ouvrir au nom de l'amour, au nom de la miséricorde, au nom de la bonté, en disant peut-être, eh bien, ils peuvent être acceptés. Oui, moi je veux bien accepter dans l'Église, mais pas pour qu'ils restent ce qu'ils sont, mais pour que Dieu les transforme. Finalement, il nous a bien transformés, non? Et s'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour n'importe qui. Et c'est terrible de voir que des fois, nous faisons une classification dans le péché. Mais l'adultère, ou l'homosexuel, ou le transgenre, tout ce que vous voudrez, ils ont besoin de Dieu et de devenir enfants de Dieu. Et leur vie, alors à ce moment-là, va être différente parce que Dieu est tout-puissant, ne l'oublions pas. Même dans les difficultés que vous traversez, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas que le menteur va vous faire croire que vous êtes fini. Et moi, je vous dis ce soir, non, en Christ, jamais personne n'est fini. Et Dieu n'a pas dit le dernier mot. Il faut simplement qu'on se cramponne à lui. C'est vrai, il peut y avoir des erreurs, j'en ai commises. Il peut y avoir des turpitudes réalisées par des êtres tels que nous sommes. Mais il y a un grand Dieu, un Dieu qui est tout puissant. Et c'est ce que nous devons affirmer, croire, et en nous soumettant à la parole de Dieu, nous verrons le miracle de Dieu se réaliser. C'est la grâce de Dieu qui est pleinement suffisante pour le faire. Que Dieu vous bénisse.